Morning Edition from NPR News.
Nancy Keys and Peter Housey.
France Inter, le 18.
Et ce soir, la question de la ligne rouge est posée à nouveau. Est-ce que nous avons encore des arguments sanctions à opposer à Vladimir Poutine? Comment répondre efficacement aux horreurs des crimes de Boutcha? Comment prouver, comment acter, sanctionner aussi les crimes de guerre? Le bruit du monde, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet avec les mots d'Oleg qui est resté à Kiev. Nous irons aussi à Shanghai dans son confinement géant de 25 millions de personnes. Et puis, le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legenie a trouvé une démission de tous les ministres au Sri Lanka. Un homme donc vacciné 87 fois en Allemagne. Et les lycées publics japonais qui se détendent un peu, mais vous allez le voir, pas sur la queue de cheval. À 18h50, c'est le monde selon Joe Biden. Furieux, lui aussi, contre Vladimir Poutine qu'il veut voir devant un tribunal. Nous irons aussi au Grammy Awards de la cérémonie d'hier soir. Et puis 18h55, le monde d'après de Franck Madvon avec la Hongrie, la Serbie, deux sortants pro-Poutine réélus. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Benjamin Haddad.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. On rejoindra Philippe Dame dans un tout petit instant qui est directeur de plaidoyer Union européenne pour l'ONG Human Rights Watch. Benjamin Haddad, tout le monde est d'accord pour dire que Boutcha est un tournant dans cette guerre. Mais le dire, c'est une chose et ça ne change pas grand-chose. Comment on fait pour faire en sorte que ce soit un tournant dans cette guerre?
On voit effectivement, on est choqué, mais on n'est pas surpris, puisqu'on voit déjà depuis quelques semaines, en fait, la Russie qui cible délibérément les civils dans cette guerre. On avait vu déjà la maternité à Mariupol, on voit les infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles qui sont ciblées. Je crois que malheureusement, on va découvrir d'autres atrocités quand on verra des villes comme Mariupol qui pourront être évacuées. La Croix-Rouge n'a toujours pas accès. Il y a un débat en ce moment en Europe, aux États-Unis, sur le fait d'accroître les sanctions et notamment d'intégrer la dimension énergétique. Aujourd'hui, les exportations, par exemple les importations de gaz russe en Europe, c'est entre 600 et 800 millions d'euros par jour que l'on envoie. C'est un trésor de guerre sur lequel s'appuie Vladimir Poutine pour financer sa guerre. Continuer et accroître aussi les livraisons d'armes qui permettent aux Ukrainiens de se défendre. Il faut rappeler quelque chose quand on voit ces atrocités. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Boutcha ou Irpin, autour de Kiev, ce sont des villes qui ont été reconquises par les Ukrainiens. Mmh. Aujourd'hui, les Russes sont en train de se redéployer dans le Donbass, dans l'est du pays, où ils vont concentrer leur action, parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre.
Oui.
Donc il faut continuer à soutenir les Ukrainiens, à leur donner les moyens de pouvoir se défendre contre cette agression. C'est ce qu'on fait depuis un mois. Je crois qu'il faut continuer à le faire et là, accélérer vraiment la cadence.
Mais alors, on entend, et on a entendu d'ailleurs le président chez nous, mais pas seulement dire que, pardon de l'expression, on en a encore sous le pied, c'est-à-dire qu'il y a encore un certain nombre de sanctions qui sont possibles. Mais on a bien vu, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, pour ce qui est du pétrole et du charbon, on trouvera peut-être un arrangement. Pour ce qui est du gaz, en revanche, beaucoup moins. Est-ce que le gaz aujourd'hui, le gaz dont on n'arrive pas à fermer ce robinet, finance la guerre de Vladimir Poutine?
Oui, toutes les importations d'énergie financent effectivement la guerre de Vladimir Poutine. Les hydrocarbures, les exportations d'hydrocarbures en Russie, ça représente un peu plus du tiers du PIB. Donc évidemment, c'est absolument considérable pour une économie qui n'est pas diversifiée comme la Russie. Donc il faudra le faire. On a déjà lancé une dynamique pour diversifier les fournisseurs, on le voit avec le gaz naturel liquéfié qui vient par exemple des États-Unis, pour investir dans les renouvelables, pour investir dans le nucléaire. Il y a un pays par exemple comme la Belgique qui a décidé de ne pas fermer quelques centrales
tout
nucléaires.
Tout ça c'est du long terme.
Alors effectivement tout ça c'est du long terme. Mais d'ailleurs je voudrais vous dire qu'il faudra le faire aussi dans le long terme, quel que soit le résultat de ce conflit. C'est-à-dire que si demain, comme les Ukrainiens l'espèrent et le demandent, il y a un cessez-le-feu, il y a un processus diplomatique avec la Russie.
Tout ça ne va pas faire sauter les sanctions du jour au lendemain.
Non, il ne faut pas. Il ne faut surtout pas normaliser la relation avec le régime de Vladimir Poutine à terme. Et sur cette question de l'énergie, on se rend bien compte, comme on s'en doutait depuis des années, qu'on n'est pas dans une logique commerciale de client à fournisseur avec un prix de marché. C'est une arme politique pour Vladimir Poutine, c'est un levier d'influence dans nos démocraties, donc c'est un enjeu même de souveraineté européenne de se débarrasser de cette dépendance à l'énergie russe à long terme.
Mais est-ce qu'on n'est pas dans les cordes, là, nous les Européens, dont une réunion d'urgence va s'ouvrir maintenant, on sait bien ce que dit l'Allemagne notamment, donc est-ce qu'on n'est pas, même derrière nos discours, est-ce qu'on n'est pas dans les cordes, est-ce qu'on n'a pas fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui, finalement, serait à la marge par rapport à ce que représenterait le robinet du gaz qu'on n'est pas prêt à fermer.
Il faut essayer de le faire. Alors là, on a mis sur la table, par exemple, la France, la question du pétrole et du charbon, ce qui représente quand même déjà une source de revenus importante pour la Russie. Et il faut accélérer au maximum sur le gaz. C'est vrai que certains pays, et notamment l'Allemagne, sont beaucoup plus dépendants. Hein, c'est 55% du mix énergétique allemand, donc ça représente une proportion beaucoup plus importante que pour la France. Mais même en Allemagne, les lignes sont en train de bouger. Alors, la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, qui a dit hier qu'effectivement, il fallait poser cette question du gaz. Alors, il n'y a pas consensus aujourd'hui dans la coalition allemande sur le sujet, mais il faut essayer d'avancer le plus rapidement possible parce que ça fait partie des quelques cartouches qui nous restent aujourd'hui pour continuer à accroître la pression sur le régime de Vladimir Poutine.
Quelques cartouches, effectivement, comme vous dites, personne ne se risque, Benjamin Haddad, à fixer une ligne rouge parce qu'on sait qu'on se prend les pieds dans cette ligne rouge, on l'a bien vu en 2013 oui. Sur la Syrie. Mais néanmoins, à un moment, est-ce que le risque, c'est pas de laisser Vladimir Poutine pousser pour voir quelle est notre réaction de plus en plus, parce que c'est ça qu'il est en train de faire là.
Oui, c'est ça qu'il est en train de faire. Il faut assumer le rapport de force et le bras de fer avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai qu'il faut trouver cet équilibre. L'équilibre qui a été trouvé par les pays de l'OTAN aujourd'hui, que ce soit Joe Biden dès le début, avant même d'ailleurs le conflit, qui avertissait en disant « Nous ne rentrerons pas directement en conflit parce que le risque d'escalade à ce moment-là, d'arriver dans une forme de guerre mondiale entre l'OTAN et la Russie, n'est pas un risque que veulent prendre les pays européens ou les États-Unis, mais donner le plus de moyens possible aux Ukrainiens pour se défendre. » Et encore une fois, je le rappelle, ça marche en fait sur le terrain. On voit les Russes ont surestimé leur propre armée, ils ont sous-estimé la capacité de résistance de la population ukrainienne. Ils font face en plus à des vraies difficultés logistiques, opérationnelles. Ils accusent des pertes élevées. Donc il faut continuer à défendre les Ukrainiens sans nous-mêmes se retrouver dans une situation d'escalade où on pourrait être co-belligérant.
Et sans nous diviser aussi, parce que c'est bien ça qu'il attend depuis le début. Il a perdu ce pari, Vladimir Poutine, au début. Mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois là, arrivé au stade où il peut le gagner, ce pari-là? Parce que encore une fois, on est dans les cordes.
Ça, c'est vraiment une question effectivement très difficile. On a frappé très fort, très vite au début, dans les tout premiers jours de l'invasion avec des sanctions, mais ce sur quoi effectivement on pouvait se mettre d'accord. Aujourd'hui, c'est là qu'on voit des fissures. Je pense que c'est important de rester unis parce que sur le plan diplomatique, politique, c'est plus fort, mais aussi c'est ce qui nous permet par exemple de dégager des fonds européens pour compenser les pays qui seraient frappés par le coût économique de ces sanctions. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, on a des mauvaises nouvelles, comme par exemple Viktor Orban qui a été réélu hier en Hongrie, qui va avoir les deux tiers du Parlement, ce qui d'ailleurs va poser des problèmes en termes d'état de droit et de liberté publique, de révision de la Constitution en Hongrie. Donc il y a des fissures, il faut essayer au maximum de garder un front uni et d'avancer fort.
Et pas seulement d'ailleurs, parce que quand on regarde, nous on a l'impression que la communauté internationale, comme un seul homme, parle contre Vladimir Poutine, mais si on regarde un peu la carte d'un peu plus haut, on se rend compte que la communauté internationale, c'est nous, très globalement les Européens. Alors effectivement, vous l'avez souligné, la Hongrie un petit peu dans une espèce de zone grise, ce sont les États-Unis évidemment, toute cette partie du monde, mais sinon, l'Afrique ne dit rien, une grande partie de l'Asie, même sans parler de la Chine. Donc, le monde entier, il y a d'autres débouchés pour Vladimir Poutine.
Oui, tout à fait. Il y a des pays, par exemple, vous parlez de l'Afrique ou du Moyen-Orient, qui sont extrêmement dépendants des ressources alimentaires aussi de la Russie. Donc, on l'a vu, hein, quand on a fait la cartographie des pays qui sont abstenus ou qui ont voté contre la résolution de condamnation aux Nations Unies de la Russie. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça nous entrave, nous, Européens. Après tout, il faut assumer que c'est un conflit qui est en Europe, que c'est un affront contre l'ordre de sécurité européen, contre nos valeurs, qu'on défend aussi nos intérêts en soutenant les Ukrainiens, leur capacité à se défendre. Donc le fait qu'il n'y ait pas forcément un soutien universel à la condamnation de la Russie ne doit pas nous limiter. C'est aussi, je dirais, ça participe de ce réarmement intellectuel et politique de l'Europe qui est nécessaire, c'est d'accepter d'être une communauté politique qui défend ses propres intérêts, ses propres valeurs, même si le reste du monde ne suit pas forcément à tout instant.
Les mots de crime de guerre, on va rejoindre Philippe Dame qui nous attend au téléphone dans un tout petit instant, les mots de crime de guerre, parfois même de génocide, de crime contre l'humanité, tout ça pour nous effectivement c'est important et c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez le sentiment que ça l'atteint, lui, Vladimir Poutine? Est-ce que ça glisse complètement dessus?
Non, je crois que ça glisse, mais en revanche ça peut avoir un impact politique. Il faut absolument là tout faire pour soutenir les Ukrainiens. La procureure générale d'Ukraine par exemple a lancé une enquête pour les aider à documenter tout ce qui s'est passé, pour faire le plus d'entretiens possible. rapidement pour envoyer des juristes, des experts. Votre autre invité pour en parler avec plus de détails, parce que ça continuera à faire de ce régime un paria international. Alors évidemment, il y a des plaintes qui vont être déposées devant la Cour pénale internationale. Il y a un problème politique, c'est comment est-ce qu'on peut traîner Vladimir Poutine ou les commanditaires de ce type d'action dans les tribunaux. Ça sera beaucoup plus compliqué. On l'a vu, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir aujourd'hui en Syrie. Mais ça nous forcera, nous, à ne pas normaliser, encore une fois, même après un cessez-le-feu, même après un accord de paix éventuel, à ne pas normaliser la relation avec ce régime à terme.
Bonsoir Philippe Dame.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de plaidoyer Union européenne pour l'ONG Human Rights Watch. On sait bien que vous travaillez déjà, Philippe Dame, vous et d'autres, que vous recueillez déjà des preuves, pas seulement évidemment là autour de Boutcha, mais ça a commencé depuis le début de cette guerre. Comment vous faites précisément? Est-ce que vous pouvez aller vite sur le terrain? Quels accès vous avez? Est-ce que là, quelque chose s'accélère pour vous?
Alors, depuis le début du conflit, effectivement, on a documenté un certain nombre de crimes de guerre possibles déjà commis par les autorités russes. Je pense que ce qui est important dans ce conflit, c'est de voir combien il est documenté à travers des vidéos, des photos, à travers beaucoup d'images satellites qui permettent en fait de documenter ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est essentiel pour nous, vu que ça nous permet d'avoir des preuves que nous vérifions sur la base d'une approche méthodique un peu plus traditionnelle qui se base sur les témoignages des victimes. Et donc, c'est vraiment la combinaison de ces deux éléments, des preuves matérielles visuelles très fortes et très documentées, et de continuer à travailler sur la base des témoignages des victimes qui nous permettent de documenter ces exactions. Depuis le début du conflit, on a effectivement documenté des attaques sur les zones peuplées avec l'utilisation de bombes hautement explosives, de bombes à fragmentation qui devraient ne pas être utilisées sur des zones civiles.
Vous parlez de viol même, Philippe Dame.
Pardon ?
Vous parlez de viol aussi, Philippe Dame, de l'arme du viol.
On parle également de viol. On a également documenté au cours des dernières semaines des exécutions extrajudiciaires dans 3 cas différents. Ce qui en fait reflète à une échelle un peu beaucoup plus grande en fait ce qu'on commence à voir émerger à Boucha et Irpin au cours du week-end.
Est-ce que vous diriez que je vais le mettre entre guillemets parce que c'est un côté terrible de le dire comme ça, que vous pouvez travailler bien en fait, qu'il y a, vous le disiez, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de témoignages. Est-ce que c'est un conflit pour vous si pour l'instant on exclut Mariupol d'ailleurs où personne n'a pu rentrer, mais est-ce que vous diriez que vous pouvez travailler dans des conditions qui malgré le contexte sont des conditions acceptables qui permettront effectivement d'avoir des dossiers qui seront extrêmement lourds et épais?
Oui, je pense que, bon, travailler bien, je ne sais pas si c'est le terme que j'utiliserais, mais il y a énormément de preuves. Les preuves sont accablantes et les preuves s'accumulent de jour en jour et de semaine en semaine. Je pense que assez clairement, on voit une descente dans l'horreur et dans la brutalité. Vous avez cité Mariupol, qui est une des villes qui a été assiégée depuis plusieurs semaines. Chernihiv, au nord, a subi pendant plusieurs semaines un sort assez comparable. Et donc, très clairement, il est essentiel de continuer à documenter ces crimes. C'est le travail que peut faire une ONG comme la nôtre et d'autres qui ont la capacité et l'expertise pour le faire. Mais je pense qu'il faut pas oublier, c'est que des institutions comme la Cour pénale internationale, à travers son procureur ou une commission d'enquête établie au début du mois par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, peuvent également faire ce travail de documentation spécifique et professionnelle.
Est-ce que, Philippe Dame, est-ce qu'il y a une difficulté sur le qui? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait si c'est l'armée russe, très spécifiquement? Est-ce qu'on on connaît cette expression, hélas, depuis longtemps, de ces hommes verts, c'est-à-dire des hommes sans écusson, sans rien, qu'on ne peut pas identifier, qui pourraient être des hommes de Wagner ou qui pourraient être des hommes du Tchétchène Kadyrov? Est-ce qu'on sait dire qui, ou est-ce qu'il y a une pointe d'interrogation là-dessus?
Déjà, il faut savoir le quoi. On a vu effectivement ces images émerger, mais la première chose à faire, c'est de reconstruire le narratif de ce qui s'est passé lorsque ces personnes ont été tuées. Clairement, on a des victimes en grand nombre. Il faut documenter par quelles armes elles ont été tuées. Il faut engager une expertise balistique, une expertise de médecine légale pour avoir des conclusions sur qui a été tué et comment ces personnes ont été tuées. Et en fait, effectivement, l'étape suivante, ça a été d'essayer d'identifier qui sont les responsables de ces violations. Il y aura sans doute beaucoup de méthodes, notamment en utilisant la médecine légale et d'autres preuves pour essayer d'identifier. Effectivement, ce sera un gros défi. Et je pense que, encore une fois, les témoignages des victimes, les témoignages des témoins pourront permettre de corroborer les informations qui pourront être obtenu directement sur le terrain afin de voir quelles troupes quelles personnes, quelles brigades sont responsables. Il est probable que ce soit que la responsabilité de l'armée russe soit impliquée, mais il faut que ce soit corroboré effectivement par des témoignages beaucoup plus directs.
Merci beaucoup Philippe Dame, je sais que vous êtes un homme très occupé, c'est bien normal, directeur de plaidoyer Union Européenne pour l'ONG Human Rights Watch. Benjamin Haddad, à un moment il faudra qualifier aussi, on entend parler de Zelensky parle de génocide, il y a une définition derrière le génocide, on parle aussi de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. On se dit à ce moment-là que ces mots-là, c'est normal de les présenter, de les prononcer, on est dans un vrai moment émotionnel, mais il faudra aussi qualifier, et ça a vraiment du sens de qualifier ces choses-là.
Oui, il faut le qualifier, ça a du sens, il faut le faire effectivement avec prudence, donc il y a des experts, il y a des juristes, on a entendu, il va y avoir une enquête, on va essayer de déterminer exactement les responsabilités, parce que en fait, même en temps de guerre, il y a du droit, il y a règles, il y a évidemment les conventions de Genève, il y a les règles sur les crimes contre l'humanité, les génocides, et donc il faut le documenter. Les Ukrainiens ont déjà été victimes de ce type de crimes, dans les années 30, ils ont été victimes du génocide du Holodomor, les famines organisées par le régime de Staline. D'ailleurs, il faut rappeler que les concepts même de crimes contre l'humanité et de génocide ont été développés par deux juristes différents à l'université de Lviv, en Ukraine. Donc il y a des
Philippe
racines
Sands
en plus,
raconté,
exactement, dans le livre magnifique de Philippe Sands.
Absolument.
Donc il y a en plus un héritage dans ce pays qui est très fort. Donc il y a des déclarations politiques aujourd'hui là-dessus, il faut être prudent. On est évidemment en présence de crimes et de crimes de guerre, et après les juristes feront le travail pour déterminer les responsabilités aussi pour l'histoire.
Vous n'êtes évidemment pas dans la peau de Vladimir Poutine, Benjamin Haddad, et c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais on sait bien qu'il faudra pister les donneurs d'ordre, c'est ce que nous expliquait Philippe Dame à l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine ne contrôle pas sa guerre, éventuellement même qu'il a donné carte blanche à un certain nombre de gens et qu'il ne sait pas ce qui se passe derrière? Est-ce que c'est une hypothèse qui est envisageable ou pas?
Écoutez, il faudra déterminer et voir dans l'enquête les responsabilités directes des uns et des autres, mais il suffit de regarder l'histoire récente. L'armée de Vladimir Poutine, elle s'est comportée comme ça à Grozny, en Tchétchénie, en 1999, quelques semaines à peine après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en tant que Premier ministre. Il lance la deuxième guerre de Tchétchénie avec des atrocités à Grozny. Elle a soutenu le régime de Bachar al-Assad à Alep, avec les exactions contre les civils, avec la manipulation cynique des corridors humanitaires, un régime qui gazait sa propre population. Donc c'est un comportement qu'on voit déjà d'ailleurs depuis plusieurs semaines.
Et qui a été jusque-là impuni.
Donc, et qui a été, bien sûr, qui a été impuni. On avait vu la maternité à Mariupol. Donc il y a en tout cas un historique clair, un bilan de l'armée russe sur ces conflits.
Une toute dernière chose, parce que le temps file, est-ce que vous diriez que ces actes-là, ces exactions qui ne peuvent pas intégralement échapper aux Russes, quoi qu'on en dise, abîment y compris la popularité de Poutine à l'intérieur, ou est-ce que là aussi c'est nettement plus compliqué?
Je crois que c'est très compliqué de déterminer. Ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine a peur de sa population. Il a pris des mesures de plus en plus autoritaires ces dernières semaines, que ce soit la fermeture des derniers médias indépendants, la fermeture des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, 15 ans de prison pour tous ceux qui contestent la version officielle de la guerre. On ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de ce régime. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fuite en avant autoritaire qui suggère une forme de fébrilité de la part de Vladimir Poutine.
Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales, directeur Europe du think tank Atlantic Council à Washington. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet avec Oleg qui est resté à Kiev. En reportage, parce que le monde tourne mal en ce moment, même hors d'Ukraine, vous verrez à quoi ressemble Shanghai, troisième ville du monde sous confinement. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie.
La très grave crise économique que traverse le Sri Lanka tourne à la crise politique. La quasi-totalité des ministres a démissionné.
Le monde selon Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Salut à tous. Biden parle de scandale et de crimes de guerre à Boutcha. Zelensky demande aux artistes des Grammys de chanter contre la guerre silencieuse de Poutine.
Le monde d'après, Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne. En Hongrie et en Serbie, deux dirigeants sont réélus, Orban et Vucic. Ils ont la particularité d'être tous les deux assez proches de Poutine.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec Pete Doherty, The Epidemiologist, un extrait de son nouvel album The Fantasy Life of Poetry and Crime, coécrit avec le compositeur et producteur français Frédéric Lowe.
The best laid plans can oft go to fuckery. Run down B&Bs can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search. I learn.
plunge headlong into atrocities with an exponential known only to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock. Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. With an exponential known only to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Lajar, Peter Lowry and Humphrey Bogart, Jane Seabird, Daniel Dark, panic in the streets and panic in Eagle Park. Oh yes, I search and I search. I lurch headlong into atrocity with an exponential known only to very few ever.
Les notes vocales de Caroline Gillet sont dans Un jour dans le monde comme chaque soir. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Depuis le début de la guerre, Caroline, une dizaine d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes et quelques Russes vous envoient leur vie, leurs impressions, leur quotidien dans ce conflit depuis leur téléphone portable. Aujourd'hui, grâce à vous, nous retrouvons Oleg, qui est donc resté à Kiev.
Oui, c'est lui qui avait raconté les pénuries d'essence, les premières neiges sous Kiev bombardées, puis il avait enregistré les sons au checkpoint, les concerts Place Maïdan ou les coiffeurs dans les sous-sols. Voilà deux nouveaux messages de sa part, le premier date du 15 février et le second de ce matin.
Dans le parc d'Auschwitz, le parc Shevchenko, il fait très beau aujourd'hui. Il y a du monde qui est sorti un peu dans les rues, beaucoup plus que d'habitude, mais quand même ça reste pas beaucoup, il n'y a presque pas d'enfants. Et on voit par contre les gens qui se promènent avec 3, 4, 5 chiens en même temps. Ce sont ceux qui ont pris des animaux chez eux, de leurs amis ou même des inconnus qui ont fui Kiev en urgence et qui n'ont pas pris leurs animaux avec eux. On voit également dans les immeubles d'habitation qu'il y a des trous percés à travers les murs pour faire sortir les animaux qui étaient bloqués dans les appartements. Les bénévoles, ils ont organisé un service pour percer les murs avec les marteaux-piqueurs et sauver les animaux abandonnés. On voit également dans Kiev les voitures, surtout les 4x4 qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. C'est de l'aide humanitaire des pays comme Lituanie, Pologne. Aujourd'hui, on est le 4 avril. La situation est un peu calme depuis quelques jours. Il y a un peu plus de voitures, on voit que les gens reviennent petit à petit. Par contre, on sent bien que tout le peuple ukrainien est terrifié et choqué par les atrocités qui ont eu lieu à Boutcha. Ici, on parle tous de génocide du peuple ukrainien. On dit qu'il y aura une nouvelle attaque à l'est et on est effrayé par les conséquences qui peuvent avoir lieu après cette attaque de l'armée russe.
Et on comprend qu'il soit effrayé. Merci beaucoup à Oleg, merci bien sûr à vous Caroline Gillet. Demain, grâce à vous, on va retrouver Nalia, qui fait justement partie de ceux et celles qui commencent doucement à retourner vers Kiev après avoir fui vers l'ouest. À demain.
Le 18-20.
Le bruit du monde continue, il est à Shanghai. Ce soir, plus grande ville de Chine, troisième ville du monde qui teste ses 25 millions d'habitants et les a confinés depuis la semaine dernière. Les images de cette ville devenue fantôme sont saisissantes. La Chine a déclaré 13 000 cas aujourd'hui, dont 9 000 pour la seule ville de Shanghai. Un responsable local a déclaré que le foyer de Shanghai était même plus important désormais que celui de Wuhan. Voici à quoi ça ressemble, ce Shanghai-là. Le reste, c'est Simon Le Plâtre qui raconte.
Numéro 62 à numéro 90, merci de sortir pour le test. Depuis 4 jours, à Shanghai, la vie est rythmée par les haut-parleurs. Les 25 millions d'habitants de la métropole vivent aujourd'hui confinés, leur quotidien entre les mains des volontaires des comités de quartier qui organisent les tests, ramassent les ordures et distribuent parfois des vivres. Et gare à ceux qui ne sortent pas à temps pour le test, comme cet habitant du numéro 33. La seule sortie autorisée, tous les 2 ou 3 jours, c'est pour aller faire ses tests PCR. Il faut s'enregistrer en ligne, présenter un code QR à un employé et ouvrir grand la bouche devant du personnel en combinaison intégrale. La hantise de tous les habitants, c'est qu'un de ces tests se révèle positif, car les personnes infectées sont envoyées à l'hôpital ou dans des centres de confinement, improvisés dans des parcs d'exposition ou des gymnases, des lits de camp les uns à côté des autres, avec dans le meilleur des cas des cloisons ajoutées à la va-vite. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent de ces conditions d'internement.
Il n'y a pas d'eau dans les toilettes, elles sont pleines d'excréments. On n'a rien pour se laver le visage. On ne nous donne pas de médicaments. Cela fait 3 jours et on n'a même pas de test. On ne nous dit pas quand on en aura.
Alors comment justifier l'entêtement des autorités chinoises à continuer la politique zéro Covid quand presque tous les autres pays l'ont abandonné ? L'exemple de Hong Kong a de quoi faire réfléchir. Le territoire chinois qui a longtemps maintenu une politique stricte a subi en février une vague massive et s'est retrouvé avec le plus fort taux de mortalité au monde. En cause, le défaut de vaccination des plus faibles, personnes âgées notamment. En Chine, seuls 50% des plus de 80 ans sont vaccinés et 20% ont reçu une troisième dose. J'ai posé la question à mes voisins, la dame 70 ans est vaccinée, mais le monsieur plus âgé ne l'est pas. Ce que dit ce vieil homme, c'est qu'il n'est pas vacciné parce qu'il a 90 ans et il souffre de problèmes cardiaques, une tension artérielle élevée et il a même reçu un pontage. Mais ce n'est pas grave, ajoute-t-il, parce qu'il ne sort pas trop de chez lui. En Chine, les femmes enceintes ne sont pas vaccinées non plus parce que les autorités ont peur des effets secondaires. Résultat, les plus faibles ne sont pas protégés. Ajoutez à cela l'absence d'immunité naturelle, puisque la politique zéro Covid a bien fonctionné depuis 2 ans. Et voilà pourquoi la Chine est aujourd'hui coincée avec une politique toujours plus coûteuse face à des variants plus contagieux.
Simon Le Plâtre pour le reportage à Shanghai. Merci beaucoup. Le bruit du monde sous les radars, c'est Sébastien Legénier. C'est tout de suite. Et Sébastien, vous nous emmenez d'abord dans les rues de Colombo, hier, donc au Sri Lanka, où les manifestations s'enchaînent. La crise économique s'est transformée en crise politique.
Sous la pression de la rue, en effet, presque tous les ministres du gouvernement sri-lankais ont démissionné en bloc la nuit dernière. 26 ministres démissionnaires, sauf le Premier ministre et le Président, qui restent au pouvoir coûte que coûte. Les deux hommes politiques, deux frères, sont plus isolés que jamais, très critiqués depuis des semaines, au point que les autorités ont décrété l'état d'urgence vendredi dernier dans le pays, permettant à l'armée d'arrêter qui elle veut sans passer par la police. Les réseaux sociaux également ont été brièvement coupés. Un couvre-feu a été décrété ce week-end, levé depuis ce matin. Bref, la tête de l'État est en pleine panique face à des manifestants de plus en plus nombreux et violents. On entend là un manifestant qui dénonce le gouvernement qui, selon lui, a amené le pays dans un état de délabrement, de néant. Les étudiants, la classe ouvrière, dit-il, les agriculteurs, tout le monde est dans la rue. Les citoyens se rassemblent parce qu'ils ne peuvent même plus acheter de produits de première nécessité. Voilà l'origine, en fait, de cette flambée populaire. Une crise historique, la pire crise économique depuis 1947, depuis la création de ce pays de 22 millions d'habitants. Grave pénurie sur les biens essentiels, farine, sucre, médicaments, hausse spectaculaire des prix de l'essence, longue, très longue coupure de courant car le gouvernement n'a plus de devises étrangères pour acheter des hydrocarbures. Une situation critique qui s'explique notamment par le Covid, de leur recul dramatique du secteur touristique, une gestion politique calamiteuse. Le gouverneur de la Banque centrale a démissionné, les cours de la bourse ont été suspendus. Le FMI a été appelé à la rescousse, mais les négociations vont durer des mois, voire des années. Pas sûr que l'équipe au pouvoir résiste jusque-là.
Direction l'Allemagne, avec mon histoire préférée, celle d'un homme qui s'est fait vacciner contre le Covid presque 90 fois.
Oui, l'histoire est à peine croyable. Fabienne, un homme de 61 ans, fait l'objet d'une enquête en Allemagne après que les autorités ont découvert qu'il avait été vacciné au moins 87 fois exactement depuis le mois de juillet 2021. Cet Allemand est originaire de Magdebourg. Il aurait reçu jusqu'à 3 doses par jour dans différents centres de vaccination de l'État de Saxe, de Saxe-Anhalt, à l'est de l'Allemagne. À chaque rendez-vous, l'homme se présentait avec une nouvelle carte vaccinale, vierge, à son nom, mais sans carte d'assurance maladie, ce qui le rendait difficilement traçable. L'histoire a fait le tour des médias allemands, vous l'imaginez. Alors pourquoi faisait-il cela, me direz-vous ? Eh bien, pas par passion pour les piqûres, mais parce qu'il revendait ensuite son schéma vaccinal complet, son carnet de vaccination, à des antivax, un business lucratif dont on ne connaît pas toutefois le détail. Pas de détails non plus sur le bilan sanguin et l'état de santé de ce sexagénaire surdosé. On sait juste qu'il est bien vivant, que c'est un employé d'un centre de vaccination qui a fini par le démasquer. Pour l'heure, donc, les autorités ont recensé 87 vaccinations, mais il ne s'agit que des doses connues des autorités. Le chiffre réel pourrait encore être bien supérieur.
Ouais, le comble, ce serait vraiment qu'il attrape le Covid. Ouais, on finit au Japon avec une bonne nouvelle. Les lycées de Tokyo assouplissent leur règlement intérieur.
Oui, depuis la semaine dernière, un air de liberté souffle sur les lycées publics de la capitale japonaise. Jusqu'ici, les établissements obligeaient les élèves à avoir les cheveux intégralement noirs, teinture interdite, obligation aussi de porter des sous-vêtements de couleurs spécifiques, le plus souvent blancs, des règles draconiennes saluées dans de nombreux reportages à la gloire de ce système scolaire extrêmement strict. JR 黒江駅から Ces règles sont connues depuis les années 70 au Japon sous le nom de Buraku Kosuku. Mais les critiques des parents et des élèves se multiplient depuis des années. En 2017, une élève a même porté plainte pour détresse mentale. La ville de Tokyo a donc décidé le mois dernier d'abolir une partie de ces réglementations dans les quelques 200 lycées publics de la capitale. Les écoles autorisent désormais un plus large choix de coupe de cheveux. En revanche, certaines règles restent en vigueur, comme l'interdiction pour les filles, attendez-vous, écoutez-le bien, de se faire une queue de cheval par crainte qu'elle n'excite trop leurs camarades masculins. C'est pas encore gagné.
Eh ben dites-moi, vous savez ce qui est fou avec ces règles effroyablement sexistes, c'est que ce qu'elles disent surtout, c'est que les hommes sont faibles et incapables de se contrôler. Vraiment,
c'est cela.
Encore bravo. Allez, d'autres histoires sous les radars, Sébastien Eugénie. Demain, bien sûr, vous repartez avec les Staple Singers. Un père et ses quatre enfants, figurez-vous. Ça s'appelle I'll Take You There sur France Inter et dans un journal Monde. I know what the lace. Singers, une histoire de famille. Donc, I'll take you there sur France Inter. Allez, direction Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president
Et l'Amérique de Biden a bien sûr la tête en Ukraine cette semaine, surtout après les images de Boutcha ce week-end. Sébastien, Washington, comme beaucoup de capitales, condamne ce qu'elle qualifie de crime de guerre.
Oui, le président américain veut précisément un procès pour crime de guerre. Il l'a dit cet après-midi en rentrant à Washington. Après le week-end passé chez lui dans le Delaware, le président américain juge ce qui se passe à Boutcha scandaleux. Ce n'est pas un génocide d'après lui, mais c'est un crime de guerre. Ces images de cadavres dans les rues de cette ville près de Kiev, que les Russes ont abandonné la semaine dernière, le chef de la diplomatie américaine les a vus lui aussi, bien sûr. Et voilà ce qu'en dit Anthony Blinken, c'était sur CNN.
You can't help but...
On ne peut s'empêcher de voir ces images comme un coup de poing à l'estomac. Depuis l'agression, nous disons que nous pensons que les forces russes ont commis des crimes de guerre. Et nous nous sommes efforcés de documenter cela, de fournir les informations dont nous disposons aux institutions et organisations compétentes qui rassembleront tout ça. Et il faudra rendre des comptes. Mais je pense que la chose la plus importante est que nous ne pouvons pas devenir insensibles à ça. Nous ne pouvons pas normaliser ce genre de fait. C'est la réalité de ce qui se passe chaque jour tant que la brutalité de la Russie contre l'Ukraine continue. C'est pour ça qu'il faut y mettre un terme.
L'ambassadrice américaine aux Nations Unies annonce de son côté qu'elle va essayer de faire suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et puis à Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères assure lui que ces images de Boutcha ont été commandées par les États-Unis et il dénonce un complot pour accuser la Russie.
Et puis Sébastien, l'Ukraine était aussi sur la scène des Grammys hier soir.
Les Oscars ont été timides sur le sujet, oui, il y a une semaine. Quelques drapeaux bleus et jaunes à la boutonnière, une ou deux allusions, dont celle de Francis Ford Coppola, on en a parlé ici même. Mais les récompenses de la musique, effectivement, ont consacré une longue séquence à la guerre en Ukraine hier soir. D'abord avec un message vidéo enregistré du président Zelensky, qui a appelé les artistes à remplir le silence de mort qui règne sur son pays avec leur musique. Il a dit, ce n'est pas comme ça, en parlant, en chantant, que viendra la paix. Ce n'est que comme ça, pardon, que viendra la paix. Et après lui, John Legend a joué son morceau Free au piano. Il y avait deux grands drapeaux ukrainiens derrière l'estrade avec l'hôtel, dans l'hôtel de Las Vegas où avait lieu la cérémonie. Des images de villes ukrainiennes en flammes, de civils en pleurs aussi sur les écrans. Et puis sur scène, aux côtés de lui, trois artistes ukrainiennes. La chanteuse Mika Newton, la joueuse de bandoura. Elle s'appelle Susanna Iglidan. Le bandoura, c'est un instrument folklorique ukrainien à cordes entre le sitar, la sitar et le luth. Et puis la troisième artiste ukrainienne sur scène, c'était Lyuba Yakimchuk. C'est une poétesse originaire du Donbass. Elle a fui l'Ukraine il y a quelques jours. Et elle est venue dire un texte sur la musique de John Legend.
Our Father, who art in heaven, of the full moon and the hollow sun, shield from death my parents, whose house stands in the line of fire, and who won't abandon it like a tomb. Our daily bread, give to the hungry, and let them stop devouring one another. And forgive us our destroyed cities, even though we do not forgive for them our enemies. Shield and protect my husband, my parents, my child, and my motherland.
Oh Lord. Voilà, elle parle des villes détruites de son pays, de ceux qui ont faim. Elle demande qu'on préserve son mari, ses parents, ses enfants et sa terre natale, l'Ukraine.
Allez, des nouvelles de Donald Trump peut-être pour finir, Sébastien?
Jamais loin, l'ancien président en meeting pour récolter des fonds samedi soir encore dans le Michigan, comme tous les 15 jours ou presque, et qui hier annonce qu'il soutient Sarah Palin, vous vous souvenez d'elle évidemment. Première femme élue gouverneure de l'Alaska, c'était en 2006, égérie du Tea Party, surtout colistière de John McCain en 2008, candidat républicain à la présidentielle. Il l'a regretté après, ses gaffes et son manque de crédibilité lui ont fait perdre plus de 2 millions de voix d'après une étude de l'université de Stanford publiée après l'élection. Mais ce n'est pas le sujet, McCain est mort désormais, le sujet maintenant c'est le seul siège de l'Alaska au Congrès, siège vide après la mort de Don Young qui a représenté l'Alaska pendant près d'un demi-siècle. Ça intéresse Sarah Palin, figurez-vous. Elle l'a dit vendredi dans un communiqué. Et hier, Trump a fait savoir qu'il la soutenait. Elle m'a soutenu très tôt en 2016 et on a gagné, dit-il. À mon tour maintenant de la soutenir. On verra ce que ça donnera dans cet état où les démocrates n'ont pas remporté d'élection fédérale depuis près de 15 ans. La primaire, c'est le 11 juin, mais sans attendre les résultats, certains la voient déjà comme une possible colistière de Trump en 2024. Ça serait un duo de haut vol à la Maison Blanche.
Allez, Sébastien Paour, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, on a donc voté hier en Hongrie et aussi en Serbie. Dans les deux cas, des dirigeants populistes ont été reconduits au pouvoir. Le Hongrois Viktor Orban a remporté donc un quatrième succès électoral d'affilée. Et le Serbe Aleksandar Vučić, lui aussi, a gagné nettement la présidentielle et les législatives. Ces deux hommes ont la particularité d'être très indulgents avec Vladimir Poutine, voire proches du président russe. Malgré la guerre en Ukraine, le partenariat avec Moscou peut donc servir et c'est votre monde d'après.
Les victoires Fabienne de Viktor Orban et Aleksandar Vučić peuvent sembler en effet étonnantes. Victoire, on pourrait même dire triomphe. En Hongrie, Orban a écrasé la concurrence. Les sondages annonçaient un succès étriqué. Eh bien pas du tout. Le parti Fidesz du Premier ministre a recueilli plus de 53% des voix contre 35% pour la coalition de l'opposition emmenée par Péter Márkizay qui a dénoncé sans relâche la dérive antidémocratique du pouvoir. Sans relâche mais en vain. Viktor Orban, 58 ans, conserve nettement sa majorité des deux tiers au Parlement, grâce, il faut le dire, à une loi électorale taillée sur mesure pour son parti. Après 12 ans à la tête de la Hongrie, il va pouvoir continuer à mener sa politique ultra-conservatrice, anti-immigration, qui a mis à mal l'indépendance de la justice et la liberté des médias dans son pays. Large succès également donc pour Aleksandar Vučić, 52 ans. Le président serbe s'impose nettement dès le premier tour, avec près de 60% des voix. Son parti de centre-droit a aussi remporté les législatives, même s'il perd quelques sièges, résultat définitif pour ce soir. Il conduit une politique comparable à celle de son voisin hongrois du Nord, autoritaire et portant régulièrement atteinte aux libertés publiques.
Et donc ces deux dirigeants entretiennent des relations étroites avec la Russie de Vladimir Poutine.
Et d'ailleurs, le président russe s'est empressé de les féliciter. Avec Viktor Orban, on pourrait presque parler d'une relation amicale. Le Hongrois rencontre régulièrement Vladimir Poutine. Il était encore début février à Moscou, 3 semaines avant le début de la guerre en Ukraine. En 2014, déjà, Orban vantait le modèle russe. Il s'en est sans doute inspiré pour museler l'opposition. Il a accueilli à Budapest une grande banque moscovite transférée dans son pays. Il a signé des contrats juteux avec les géants russes Rosatom et Gazprom. La Hongrie est à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Poutine trouve ainsi en Orban un allié dans ces deux organisations qu'il considère, on le sait, comme des ennemis de la Russie. Et le Hongrois, lui, prend un malin plaisir à se rapprocher de Moscou pour contrebalancer les critiques des Occidentaux qui s'en prennent à ses dérives autoritaires. Aleksandar Vučić joue lui aussi sur les deux tableaux. Il se veut un ami de l'Occident, en apparence moins provocateur qu'Orban, mais le Serbe exerce une forte emprise sur son pays. Il contrôle les institutions et la quasi-totalité des médias, façon Poutine, et surtout l'opinion publique serbe est très favorable à la Russie. Il s'agit de deux peuples slaves qui ont un ennemi commun, l'OTAN. Personne à Belgrade n'a oublié les bombardements anti-serbes de 99. Vučić est donc resté prudent pendant la campagne, pas question de critiquer Poutine. Enfin, et c'est un point essentiel, Hongrie et Serbie sont très dépendantes du gaz russe.
Et finalement, la guerre en Ukraine a renforcé les sortants.
Pour le Hongrois Orban, Fabienne, c'était même une stratégie de campagne. En résumé, votez pour moi si vous voulez la paix. Avec l'opposition, vous aurez la guerre. Il a ainsi déformé les propos de ses opposants, mais l'argument a convaincu les électeurs, rassurés que leur pays n'est pas à portée d'aide militaire à l'Ukraine. Les Hongrois pensent aussi à leur pouvoir d'achat. Ils savent gré à Orban de ne pas les avoir privés de gaz ou de pétrole russe bon marché. Le Premier ministre s'est contenté de ne pas bloquer les sanctions adoptées par l'UE. Orban voit même en Zelensky, le président ukrainien, un opposant. Le Serbe Vučić a lui aussi utilisé la guerre en Ukraine à son avantage. Comme Orban, il a fait campagne en se présentant comme un garant de la paix. Son gouvernement a condamné la Russie à l'ONU, mais s'est opposé à toute sanction contre Moscou. Pourtant, la Serbie, qui postule à l'Union européenne, devrait suivre la diplomatie des 27. Les exemples serbes et hongrois, au fond, montrent que ne pas attaquer Poutine peut être une stratégie électorale. Pragmatique, diront certains, opportuniste et cynique pour d'autres.
Le monde d'après de Franck Madvon ce soir. Merci beaucoup.